Bonjour à tous. Il y a quelques années sortait la carte du parfait européen. La voilà. Alors c'est un peu vieilli, mais c'est une carte qui reste, à mon avis, d'actualité. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit ton ironique, généreux comme le néerlandais, humble comme l'espagnol. Alors, on va passer sur le français et sur les autres, mais je voudrais attirer les regards sur ce que l'on dit du belge. Il est là-haut, le belge. Et on voit, vous le voyez peut-être pas, mais on voit un bureau vide, un vide, un téléphone qui sonne dans le vide aussi, un panneau où il est écrit « vacances »,« en congé » ou « en grève ». Et c'est marqué « disponible » comme le belge. Alors c'est un peu caricatural, mais ce n'est pas tout à fait faux pour avoir vécu 25 ans en Belgique. Les Belges sont souvent en grève ou en congé ou absents ou en congé maladie. Bref, le Belge n'est pas connu pour sa disponibilité. Et sur cette notion de disponibilité que j'aimerais passer quelques instants avec vous, la disponibilité, un défi pour aujourd'hui. Et j'aimerais passer ce temps sur la disponibilité parce que pour deux raisons. D'abord parce qu'on vit une époque formidable, mais en même temps une époque pleine de défis. Et un de ces défis, c'est celui de la disponibilité. Comment être disponible alors que le temps semble s'accélérer? Alors, il ne s'accélère pas le temps, mais il semble s'accélérer. Alors que la communication nous prend tout notre espace-temps, alors que tout se complexifie ou se complique, enfin, moi, je trouve. Comment rester disponible dans ces conditions alors qu'on court pour rattraper le temps? Et puis aussi, comment rester disponible pour les autres? Parce que la disponibilité, c'est une dimension essentielle de la disponibilité que de l'être pour les autres. Alors que j'ai du mal avec moi-même déjà. Alors que toute la société d'aujourd'hui, toute la communication de cette société me crie ou me dit ou me crie de m'occuper de moi-même d'abord, avant de m'occuper des autres, de m'occuper de mon bien-être, de ma sécurité, de mon plaisir, de mon confort, de ma santé, de ma liberté. Il y a des choses légitimes là-dedans, c'est certain. Mais comment être disponible pour les autres quand tout est centré sur moi-même? Comment peut-on vivre aujourd'hui la disponibilité dans ces conditions à la fois de temps qui se raccourcit et de centralisation sur ma personne? Ça, c'est la première raison, vraiment un défi. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je parle de disponibilité ce matin, parce que j'ai cru la voir dans le texte que nous avons vu tout à l'heure, ce texte de l'épître de Pierre aux chrétiens qui sont dans la dispersion en Asie mineure, dans l'Empire romain. Nous faisons une série sur l'épître de Pierre. Et nous sommes arrivés dans ce passage où il semble que Pierre nous parle de disponibilité, où les appelle ces personnes qui sont dans la dispersion, qui sont quantité négligeable et négligée dans l'Empire romain, il les appelle à la disponibilité. Et je me dis que c'était un défi pour eux, et peut-être justement parce qu'ils sont amenés à vivre un peu cachés. L'Empire romain leur dit « Écoutez, restez tranquilles, ne venez pas la ramener sur l'espace public ». Et ils seraient tentés, ces chrétiens de l'Empire romain en Asie mineure, de se replier sur eux-mêmes et de se dire « On ne veut pas que j'aille sur l'espace public, eh bien je replie sur moi, repli identitaire. On ne veut pas que je fasse de vagues, ok, je me retire comme le reflux de la marée et on n'entend plus parler de moi, je ne suis pas disponible, je ferme, je suis en congé ou en grève ». Bref, je ne suis pas disponible. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait ça que pensait Pierre, mais toujours est-il qu'il va leur écrire de rester disponible, ouvert, prêt à dégager du temps pour vivre pleinement leur vocation chrétienne. Et cela dans trois domaines bien particuliers qui pourraient peut-être être pour nous des domaines à travailler pour cette année qui s'ouvre, avec cette rentrée scolaire qui est un peu la rentrée pour tout le monde. Et le premier domaine de disponibilité ou de mise en disponibilité, c'est celui de la prière. Et le verset 7 commence « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. » La fin de toute chose est proche. Et Pierre nous dit en quelque sorte « Gardez un œil sur l'horloge du temps. » La fin de toute chose est proche. Gardez un œil sur l'horloge du temps, et pas n'importe quel temps, celui de Dieu. Mais il ne s'agit pas, en regardant l'horloge du temps, de mener une poursuite contre le temps, une sorte de course contre la montre, mais plutôt de regarder à l'horloge du temps de Dieu, c'est-à-dire l'accomplissement de son temps, de son plan. Et dans le mot « la fin de toute chose », il y a plus une idée d'accomplissement que de fin, que de cessation des choses. Attention, tout va s'arrêter. Non, c'est la fin, c'est l'accomplissement. Et donc, Dieu nous appelle à devenir participants de son œuvre. En regardant, en gardant un œil sur le temps, on garde un œil sur l'accomplissement du plan de Dieu, et Dieu nous demande de prendre part à l'accomplissement de son plan. Et il nous dit, allons-y, restons disponibles à l'accomplissement de ce temps, de ce plan. Et quelle est la première chose à faire qui tombe en matière de disponibilité par rapport à l'accomplissement du règne de Dieu sur terre et dans ma vie? Eh bien, c'est la prière. En effet, quoi de mieux pour participer pleinement à l'avancement du règne de Dieu sur cette terre et dans mon cœur que d'entrer dans ce dialogue avec Dieu qui est la source, l'énergie, l'alpha et l'oméga de ce règne, de ce royaume. Laurence en a parlé, il est souverain de ce royaume. Quoi de mieux que de la prière pour se mettre en disponibilité par rapport à l'accomplissement de ce royaume? Et donc, l'urgence de la prière est signalée un peu partout dans la Bible, mais ici peut-être plus particulièrement. L'urgence, pas au niveau du temps, même si cela est présent, mais l'urgence au niveau du fait que la prière est incontournable, est un incontournable de l'œuvre de Dieu. C'est urgent que l'on retourne vers ce qui est vraiment important dans la vie du disciple, dans la vie du chrétien, c'est-à-dire la prière. D'où cet appel à être à la fois sensé et sobre. On l'a lu, Pierre dit, soyez donc sensé et sobre. Alors, le mot sensé veut dire ce qu'il veut dire. Sens, sensé, avoir du sens et du bon. Avoir du bon sens. Et dans la Bible, il est utilisé en contraste avec l'expression « être hors de soi-même ». Hors de lui-même, c'est celui qui n'est plus en contact avec la réalité. Et en nous demandant d'être sensé, Pierre nous dit « ne perds pas contact avec la réalité de Dieu ». C'est à savoir l'accomplissement de son plan dans ta vie et dans le monde. Reste lucide sur les réalités de la vie. Prie. C'est un peu contrasté, ça. Reste lucide sur les réalités de la vie. Prie. Parce que c'est là où tu rentres dans ce qui est la vraie réalité, la réelle réalité de la vie. Et je vous ai déjà cité ce titre du livre de Bill Hybels, « Trop occupé pour ne pas prier ». On voudrait dire « trop occupé pour prier ». Non, « trop occupé pour ne pas prier ». Je suis trop occupé à garder le contact avec les réalités de la vie, pour ne pas prier. Et puis il y a le mot sobre, qui peut être traduit par équilibré, et qui met en avant la sobriété, c'est-à-dire un style de vie où les choses importantes ont une place importante dans ma vie, et les choses moins importantes ont une place moins importante. Et parfois, il faut faire de la place pour les choses plus importantes. Et parfois, je dois faire de la place pour la prière. Et parfois, je dois faire de la place à coups de machette dans la jungle des sollicitations de notre monde et aussi de mes préoccupations personnelles qui prennent plus de place qu'elles ne devraient. Faire de la place pour être disponible pour la prière. Et la version du sommaire que vous avez peut-être sous les yeux a mis le mot justement « disponible », alors qu'il n'est pas dans le texte original. Mais il a mis « disponible » parce que c'est ça, être disponible pour la prière. Première zone de mise en disponibilité pour cette année qui vient dans notre vie, celui de la prière. Et puis vient la deuxième zone de mise en disponibilité. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour couvre un grand nombre de péchés. En lisant ce verset, on a l'impression d'un déjà-vu ou d'un déjà-lu, n'est-ce pas ? Il semble qu'il y ait un complot entre les auteurs du Nouveau Testament pour nous rappeler la primauté de l'amour. Jean, l'apôtre Jean, le disciple Jean, « Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. » Paul, l'apôtre Paul, « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Persévérez dans l'amour fraternel. » Et donc les auteurs du Nouveau Testament se sont ligués, certainement inspirés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ lui-même, pour nous rappeler la primauté de l'amour. Et tous ces textes semblent nous indiquer que c'est important. C'est important, l'amour. Et ça l'est. On ne peut pas dire, question amour, écoute, c'est fermé. Revenez lundi. On est en grève. On est en congé. On fait un break. Ah, le gars qui s'occupe de l'amour est parti. Revenez la semaine prochaine. L'Esprit de Dieu qui a conduit ces auteurs de la parole veut nous faire comprendre que la primauté de l'amour, que sans cet amour, nous sommes comme une cymbale qui résonne, et que personnellement, et que communautairement, sans amour, je suis quelqu'un qui résonne, et une église qui résonne dans le vide. Et même s'il y a cette impression de déjà vu et de déjà lu et de déjà entendu, je crois qu'il nous faut réentendre cet appel à la primauté de l'amour, parce que l'amour est également victime de cette force d'inertie qui finit par nous immobiliser. La vie roule, oui, la vie se déroule, et une certaine lassitude pourrait s'installer, une certaine fatigue émotionnelle, une amertume diffuse, une mauvaise humeur constante. Et le cœur se ferme petit à petit, et on n'est plus disponible pour aimer. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi je le vois dans ma vie, il y a un risque énorme de glissement vers l'indisponibilité à l'amour. Alors on peut le cacher. Et je ne suis pas très fort en physique, mais il me semble que l'inertie permet de rouler un certain temps, justement. Vu l'inertie du véhicule, si vous roulez à 10 km/h et que vous mettez au point mort et que vous lâchez tout, vous roulez un peu. De même avec l'amour, même si il n'est plus vraiment là, on peut faire bonne figure. On peut rouler encore quelque temps, on peut cacher son étroitesse de cœur, mais après un certain temps ou un temps certain, on doit faire le constat que notre thermomètre d'amour est au plus bas et on le sent tout doucement arriver. Et tout doucement aussi, les autres vont commencer à le sentir. Alors je ne sais pas si c'est une recette qui suit, mais Pierre nous appelle à développer un amour ardent, constant. Et c'est un terme intéressant aussi qui désigne le mot ardent, constant, qui désigne le galop du cheval, ou un cheval au galop, dont les antérieurs, les pattes antérieures vont chercher loin pour maintenir le rythme du galop, pour rester en course. Et ce mot désigne l'amour qui devrait ou pourrait être le nôtre, un amour qui est un effort conscient, constant, qui se tend, qui s'étend à plus d'amour, à aimer mieux et à aimer plus de personnes. Un amour non seulement qui grandit en qualité, mais en quantité, selon les différentes personnes que j'aime, chercher à agrandir le cercle de ses bien-aimés, rester disponible dans l'amour. Alors bien sûr, il y a dans l'amour fraternel, des accros, des désaccords, des difficultés. Mais l'amour couvre une multitude, un grand nombre de péchés, nous dit le texte, nous dit Pierre, qui reprend un texte, une parole de l'Ancien Testament. Où littéralement, l'amour couvre une pléthore de péchés. Alors on a parfois du mal, et peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Car le mot couvrir peut vouloir dire cacher ou dissimuler. On dissimule les péchés, ou les problèmes, les désaccords, on les laisse de côté. Mais dans le langage biblique, il faut se souvenir que couvrir est très proche du mot pardonner, comme pour la Pâque. L'ange qui passe, qui couvre, qui passe par-dessus, qui pardonne. L'amour pardonne toujours et encore. Il voit bien les problèmes, les péchés, les siens et ceux des autres. Il ne cherche pas à tout dissimuler, mais il met tout à la lumière de Christ et il pardonne en Jésus-Christ. Et comme le dit Jacques Buchholz dans son livre « Le pardon et l'oubli », il parle de Dieu. Dieu n'oublie pas, Dieu n'est pas amnésique, Dieu ne dissimule pas les péchés. Dieu n'oublie pas les péchés, mais il se les rappelle pour pardonner. L'amour qui pardonne, l'amour ardent, l'amour constant, l'amour qui s'efforce d'allonger la foulée. Et puis, Pierre va donner un exemple très clair de l'amour que l'on peut exercer, un exemple pratique, un exemple concret, celui de l'hospitalité. Et on sait l'importance de l'hospitalité, surtout à l'époque du Nouveau Testament, où les évangélistes et les prédicateurs, qui venaient souvent de loin, étaient des itinérants. Et il fallait bien les héberger, puisque les auberges étaient mal famées et de mauvaise réputation. Et il fallait les accueillir, d'autant que, et c'était difficile, parce que les chrétiens n'étaient déjà pas très riches. Rien n'était facile à l'époque, mais sans l'hospitalité, rien n'était possible. Ceci étant dit, deux remarques sur l'hospitalité. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre la désigne comme un acte d'amour très concret. Et dans les milieux chrétiens, parfois, on parle de l'amour comme un idéal un peu éthéré, comme ça, un peu supérieur. On ne sait pas très bien de quoi il est question. Mais en fait, cet amour s'exerce dans des actes simples. Et en l'occurrence, dans les actes simples d'accueil de l'autre, d'hospitalité. Non pas dans un sentiment passionné qui nous pousserait à prendre l'autre dans nos bras et à lui faire de grands bisous un peu baveux, mais dans un simple geste concret d'un repas pris ensemble, d'un lit préparé avec sa serviette et un chocolat dessus. Et je crois que c'est encourageant pour tous ceux qui ont l'impression d'avoir le cœur à sec pour cet amour idéalisé, qui se disent... Mon cœur est peut-être à sec pour cet amour-là, mais je peux quand même faire quelque chose pour lui ou pour elle. Quelque chose de simple. Et quelqu'un disait, et ça a accompagné notre famille depuis 35 ans, qu'il fallait poser d'abord les actes et que le sentiment venait après. Et ce n'est pas insensé que de dire cela, bibliquement parlant. La primauté de l'amour en action plutôt que de la primauté de l'amour en émotion. La primauté de l'amour en action plutôt que la primauté de l'amour en émotion. Il y a quelques années, dans une église quelque part en Europe, vous savez, là où les gens ne sont pas disponibles, un jeune couple est venu à un déménagement d'un autre couple de l'église, un gros déménagement. Mais ce jeune couple qui venait pour aider, n'est pas venu les mains vides. Ils avaient aussi apporté le repas de midi pour la quinzaine de personnes qui étaient là pour le déménagement. Moi, je suis arrivé à midi pour le repas. Et ils ont fait manger tout le monde. Ils sont restés toute l'après-midi jusque tard le soir. Mais, comme si ce n'était pas suffisant, la journée d'après, le dimanche, ils les ont invités à midi chez eux parce qu'ils étaient encore dans les cartons, parce que la cuisine n'était pas installée. Ils ont invité leur couple et les enfants chez eux et ils ont passé l'après-midi ensemble pour qu'ils puissent un peu se reposer. Et ça, c'était le dimanche. Mais le dimanche matin, le couple qui invitait était à l'église. Et Yvonne et moi, on s'est dit, waouh ! On était encore jeunes à l'époque, mais on disait chapeau, parce que nous, physiquement, on n'aurait pas tenu. Il y a des gens comme ça qui sont des spécialistes de l'hospitalité, le don de l'hospitalité, ou qui ont, comme le chantait Jacques Brel, le cœur si large qu'on y entre sans frapper. Le cœur si large qu'on y entre sans frapper. Des gens disponibles. Et cette citation de Jacques Brel nous amène à ma deuxième remarque, je ne sais pas si je vous ai dit qu'il y en avait deux, mais qui porte sur l'hospitalité, mais sur la dimension intérieure de l'hospitalité. Oui, être hospitalier, c'est ouvrir sa maison, mais c'est ouvrir aussi, et je ne vais pas dire surtout, mais aussi, les portes de son cœur. Et il me semble que c'est une urgence également aujourd'hui. C'est une évidence de dire qu'aujourd'hui nous vivons une époque d'un individualisme effréné que l'on a choisi, mais qui nous isole également. Et qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, en France, il y a des personnes seules. Alors j'ai lu une enquête qui date de 2014 de l'Observatoire de Fondation de France, qui est reprise dans Le Monde, et qui nous dit le titre de cet article du Monde, « La solitude progresse ». Et d'abord, les Français sont 1 million de plus qu'en 2010 à ne pas avoir de relations sociales. Qu'un Français sur 8 est aujourd'hui seul, mais que 1 sur 3 risque de le devenir. Que les personnes âgées sont le plus touchées, mais pas seulement. Chez les moins de 40 ans, la solitude a doublé la solitude a doublé en 4 ans. Et qu'un Français sur 4 n'a pas de relation amicale soutenue, 25%. Et c'est intéressant aussi, cette enquête nous dit que les réseaux sociaux ne compensent pas, ne sont pas une compensation au manque de liens sociaux. Et le verdict de cette enquête est sans appel. Non seulement nous devenons de plus en plus seuls, mais il me semble que tout doucement nous devenons des étrangers les uns pour les autres. Le prochain devient un étranger. Et c'est pour ça que cet appel de l'Épître aux Hébreux retentit de manière toute nouvelle pour nous au XXIe siècle. Il nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas, parce qu'on pourrait oublier combien il est important d'ouvrir les portes de sa maison, mais surtout de son cœur, à celui qui est différent, à l'étranger au sens large. Je ne parle pas ici des questions d'immigration, mais de ce prochain qui nous est différent, de celui qui ne fait pas partie du réseau, qui nous est un peu étranger. Et dans ce monde marqué par la xénophobie, la peur de l'étranger, il nous semble important de passer à de marquer la différence par la philoxénia. Alors, ça fait penser un petit peu à une maladie. Moi, j'ai eu un accès de philoxénia, là. Un peu comme la myxomatose ou la toxoplasmose. Mais, et je vous dis ce mot, non pas pour faire du grec et pour vous en jeter plein la vue, mais ce mot-là, philoxénia, il est dans 1 Pierre 4, 9 ou 8. Ce mot, c'est hospitalité. Et le mot philoxénia comporte le mot xénos, l'autre. Et la xénophobie, la peur de l'étranger, le xénos, pardon, doit être remplacée par la philoxénia, l'amour de l'étranger, l'hospitalité. Ah, je trouve ça fort, moi, ces textes bibliques, dans l'original, qui nous disent des choses si fortes. L'amour de celui qui est différent, l'étranger, le xénos. Et cet appel à l'hospitalité, même si elle doit se vivre très concrètement, est aussi un appel à ouvrir les portes de mon intérieur, de mon cœur. Siège, non pas vraiment des émotions, mais de la volonté, celle d'aimer comme j'ai été aimé, accueillir l'autre comme Christ m'a accueilli, c'est-à-dire tel que j'étais dans ma différence, mais en me prenant par la main pour me mener plus loin. Et puis la troisième zone de disponibilité, c'est être disponible pour le service. Il y a aussi un appel de Pierre à cela. Puisque chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, mettez-le au service des autres en bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Et on a vu ce texte lors de la formation « Découvrez vos dons » dont Eliane se souvient très bien. On en a discuté avant le culte. Mais là, dans cette formation, on a insisté sur le fait que chacun, vous voyez le mot, puisque chacun, chaque chrétien, a reçu un ou plusieurs dons pour mettre en service, un don de la part de Dieu. Mais dans le texte ici, Pierre insiste sur le « mettez », puisque chacun a reçu un don de Dieu, que c'est une évidence, mettez-le au service de Dieu. Puisque Dieu vous a fait la grâce de vous équiper pour le service, maintenant, soyez de bons gérants de cette grâce de Dieu. Autrement dit, soyez disponibles pour l'exercice de vos dons. Allez-y ! Et donc, dans ce passage, il est question de disponibilité pour le service. Il y a quelques années, j'ai vu une pub à la télé. Moi, j'étais un publivore. J'ai été guéri depuis, mais... c'était pour Canal+. Mais au début du petit film, on ne sait pas pour qui est cette pub. Et on voit, dans ce petit film très bien fait, une jeune femme en robe de soirée qui court sous la pluie, dans la campagne, et elle trouve une maison isolée, elle sonne. Et là, il y a un jeune homme qui ouvre, le gendre parfait. Et la jeune femme lui parle et lui explique que sa voiture est en panne et un peu plus loin dans la campagne. Et elle lui demande de l'aide. Et elle a un beau sourire. Et elle est magnifique, il faut le dire. Même avec ses cheveux mouillés, le rimmel qui coule un peu. Et on se dit qu'il y a là une belle histoire d'amour qui va commencer. On s'attend à un truc magnifique. Et puis on est un peu surpris de voir que le jeune homme, bien sous toutes les coutures, ne la fait même pas entrer pour qu'elle puisse s'abriter de la pluie. Non, il la laisse là sur le pas de la porte. Et en plus, il s'en va. Il s'en va, alors elle est sous la pluie, lui il s'en va à l'intérieur, mais il revient. Ah ouais, on se dit, ah, ça va commencer. Et puis il porte quelque chose de lourd. Qu'est-ce que c'est? Ah, une boîte à outils. Et il lui donne la boîte à outils. Elle est toujours sous la pluie, il lui donne la boîte à outils. C'est tellement lourd. Et puis il lui parle quand même, il lui explique qu'une fois qu'elle aura réparé sa voiture et qu'elle peut ramener la boîte à outils et la déposer juste devant la porte, elle n'a pas besoin de ressauder. Et il s'en va. Et le plan reste sur la femme avec la jolie fille, avec la boîte à outils dans les bras. Et puis la caméra bouge et on voit que le jeune homme, il regarde Canal+, à la télé. Et j'ai trouvé fantastique, quoi, cette publicité. Une excellente pub avec un peu de cynisme, comme on les aime, comme je les aime. Mais l'illustration me semble parfaite. Voilà un homme qui, pour des raisons qui le regardent, n'est pas disponible pour le service, et surtout qui passe à côté de quelque chose de beau, de bien plus grand et de plus intéressant que son film sur Canal+. Et on se dit que c'est tellement dommage. Et Dieu se dit que c'est tellement dommage de ne pas être disponible pour lui, pour le service des autres. C'est dommage de ne pas mettre en service les dons que Dieu nous a donnés. C'est dommage pour soi. Parce qu'on passe à côté d'un certain accomplissement, on passe à côté d'une belle aventure avec Dieu. Mais aussi pour les autres, c'est dommage pour les autres, pour la communauté qui se trouve ainsi un peu déséquilibrée dans sa vie interne et dans son rayonnement à l'extérieur, alors qu'elle est peut-être en panne dans tel ou tel domaine. Alors, vous allez dire qu'en parlant de disponibilité pour le service, Eric prêche pour sa chapelle, qu'il veut recruter pour pouvoir au poste de l'Église, bientôt le conseil élargi. Et vous auriez raison. Sauf sur le pronom possessif. Je ne prêche pas pour ma chapelle. Je prêche pour sa chapelle. Je prêche pour le corps de Christ, pour son Église. Pour que dans le corps de Christ, on trouve des hommes et des femmes disponibles et disposés à le servir. Et on veut se souvenir que le Dieu de cette chapelle est le Dieu de la grâce, et que cette grâce est infiniment variée, comme dit le texte de 1 Pierre. Un Dieu de grâce qui permet, ou même qui prévoit, des services différents pour chacun, mais aussi des services à des rythmes différents. Parfois avec des temps de pause, parfois avec des temps de reconstruction. Le Dieu de la grâce infiniment varié ne cherche pas à mettre tout le monde dans le même moule du service. Il cherche seulement des hommes et des femmes disponibles pour lui. En 1980, j'avais 18 ans. Et je commençais mes études de kiné et je suis allé à un congrès chrétien et missionnaire qui s'appelait ESMA à Lausanne avec 6 000 autres jeunes. C'était magnifique. Et l'orateur principal était Michael Griffiths, qui nous parlait des besoins de l'Église, qui a écrit un livre qui s'intitule « Belle mais délaissée », un peu comme la jeune fille sur le pas de la porte. Et à la fin du séjour de 4 jours, il a fait un appel à tous ces jeunes Européens, espagnols, allemands, belges, hollandais, français. Et il nous a demandé de lever la main pour savoir si on était, et c'est pour ça que je vous le raconte, pas juste pour vous raconter un souvenir, pour me mettre en avant, qui était disponible pour Dieu. Et je me souviens encore de sa phrase, il parlait en anglais, c'était traduit dans toutes les langues européennes. Who's available? Qui est disponible pour Dieu? Et avec 300 ou 400 autres, j'ai levé la main. Je voulais être disponible pour servir Dieu là où il le voudrait. Et je ne me suis pas dit à ce moment-là, je vais devenir pasteur. Bruxelles, Orléans, Pau. Non. Pas du tout. Je ne voulais pas devenir pasteur. Ça ne venait même pas à mon esprit. Mais je voulais être disponible pour lui, à son service, au service de son Église. Et c'était un moment fort dans ma vie. Mais quand je suis aujourd'hui au creux de la vague, quand ma disponibilité est un peu en berne, quand ma passion s'évapore, quand les blessures sont un peu trop vives, je me rappelle ce moment, non pas comme un beau souvenir, mais comme un moment à renouveler. Ouais, Seigneur, comme en 1980, je veux renouveler ma disponibilité pour toi. Parce que c'est là où je retrouve l'essentiel. C'est là où je me retrouve qui je suis. Dans la prière, en dialogue avec toi, dans mon amour pour toi et pour les autres, dans le service pour toi qui donne de l'épaisseur à l'existence. Et je crois que nous avons tous besoin, en tant que chrétiens, de retrouver cette disponibilité pour Dieu. Et cela s'adresse à chacun d'entre vous. À nous tous ensemble et à chacun d'entre vous personnellement, que vous ayez ou non Canal+. Il nous faut renouveler notre disponibilité pour Dieu dans son service, dans l'amour, dans la communion avec lui par la prière. Et toi? Et vous? Êtes-vous dispo? Êtes-vous disponible? Et pendant que Luc s'approche, là, moi je vous invite à un moment de réflexion, de prière. Peut-être l'occasion de redire à Dieu que vous êtes disponible. Peut-être aussi l'occasion de se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être complètement disponible? Quelles sont les préoccupations qui sont là et qui bouchent tout l'espace-temps de ma vie? Quels sont les fardeaux que je traîne? Quelles sont les casseroles que j'accumule derrière moi? Quels sont les mauvais comportements, l'absence de pardon qui m'empêche d'être complètement disponible à l'amour? Quels sont mes doutes, mes manques de confiance qui me font dire « je ne vais pas m'offrir complètement à Dieu, je ne suis pas sûr ». Je vous invite à réfléchir sur votre disponibilité et à déposer vos fardeaux devant Dieu.